per ora non ha un'opposizione vera.
Per il momento non ha una vera opposizione al suo governo.
La sinistra ha così tanto perso credibilità.
La gauche ha perdu beaucoup toute sa crédibilité pendant des années e faudra beaucoup de temps pour pouvoir la réacquérir.
La propaganda è quotidiana.
Il y a une propagande de tous les jours.
Hanno occupato tutti i media importanti.
Le gouvernement a occupé tous les médias importants.
La notizia di oggi che
par exemple, aujourd'hui, dans les news, on a vu qu'est écrit que la présence de Salvini dans les journaux télévisés est débordante. Et donc, j'ai vraiment le sentiment que les élections européennes vont sûrement apporter encore plus de consensus au ministre de l'Intérieur. Et la propagande contre les migrants a été très utile pour ce gouvernement.
Et
c'est vraiment le bouc émissaire de toutes les lacunes de la politique italienne. L'auteur de Gomorra, de Piranha et aujourd'hui de Baiser féroce, l'écrivain, essayiste, romancier italien Roberto Saviano. Avant-dernier épisode aujourd'hui de notre série européenne, les identités sont-elles le moteur du populisme? On en parle dans un dialogue franco-italien avec nos deux invités. L'historien Marc Lazare, tout d'abord professeur à Sciences Po, il vient de co-signer avec le politiste italien Ilvo Diamanti, Peuplocratie chez Gallimard, une analyse de la métamorphose de nos démocraties par elle-même et sous l'effet des dynamiques populistes. Quel rapport au peuple ces nouveaux dirigeants entretiennent-ils? Comment ont-ils disqualifié les formes traditionnelles de la représentation, récusé les contre-pouvoirs? Bonjour à vous, Marc Lazare.
Bonjour.
À vos côtés, le philosophe italien Carlo Ossola, professeur au Collège de France, où vous occupez la chaire de littérature moderne de l'Europe néo-latine. Vous êtes l'auteur de Fables d'identité aux presses universitaires de France, où vous revenez sur les mythes constitutifs de l'Europe. S'il y a une unité, elle est pour vous à retrouver par l'histoire. Bonjour Carlo Ossola.
Bonjour madame.
Europe, le moment de vérité, c'est le titre que France Culture s'est choisi toute cette semaine jusqu'à samedi à l'occasion de notre grand forum France Culture à la Sorbonne. Marc Lazare, Europe, le moment de vérité, cette élection, ce scrutin qui va se tenir le mois prochain, va-t-il être un moment important, voire une nouvelle étape dans le processus en cours qui pourrait voir se formaliser le passage dans cette nouvelle ère de la peuplocratie que vous avez définie?
Je crois que c'est effectivement une élection très importante. Il y a 40 ans, les Européens étaient appelés à voter pour la première fois le Parlement européen. Il y a 30 ans, le communisme tombait à l'Est. Je crois que ces dates sont assez symboliques de la situation dans laquelle on est actuellement. Alors, est-ce que ça va être l'ère de la peuplocratie? Il faut s'entendre sur ce qu'on appelle évidemment peuplocratie. Notre idée avec Ilvo Diamanti, c'est qu'on ne peut plus se contenter d'analyser les mouvements et les partis populistes. Encore faudrait-il donner évidemment une définition de ces mêmes formations populistes. On ne peut plus se contenter de faire ça. Il faut essayer de comprendre l'impact qu'ils ont d'ores et déjà, qu'ils soient au pouvoir ou pas, sur l'organisation de nos démocraties. Alors, c'est pas par snobisme qu'on a forgé ce néologisme peuplocratie qui sonne mieux en italien, popolocratia. Mais c'est l'idée que la démocratie, pour aller vite, c'est le pouvoir du peuple par le peuple et pour le peuple, mais avec une série de contre-pouvoirs. Et la peuplocratie, c'est le résultat, c'est la dynamique qui est engendrée par les mouvements populistes qui imposent leur temporalité, leur thématique, leur façon de faire de la politique, qui fait que d'une certaine façon, même ceux qui les combattent sont obligés de recourir à ce style populiste, car pour nous, le populisme est un style. Donc effectivement, on attendra les résultats, mais si jamais les populistes font une grosse progression pour le Parlement européen, on peut se demander s'il ne va pas y avoir justement une extension de cette dynamique peuplocrate, si j'ose dire, qui aujourd'hui est en train d'éroder, à notre sens, les fondements même de la démocratie libérale et représentative.
Peuplocratie, Carlo Ossola, comment ce néologisme résonne pour vous? Est-ce qu'il fallait l'inventer pour définir, essayer de cerner ce qui se joue aujourd'hui?
Oui, les thèmes qui sont en jeu sont d'un côté l'idée de peuple et d'autre côté l'idée de démocratie. Alors, l'idée de peuple est très abstraite dès qu'on regarde concrètement les données historiques pour chacune des nations, on pourrait dire que chaque nation abrite plusieurs peuples. Parce que l'Europe a été toujours plurielle et chaque nation a dans son sein des différences profondes. Prenons quelques pays qui sont du reste en tension constante. L'Espagne, entre la partie Castille et la partie catalane, sans compter les Basques. Prenons l'Allemagne, la partie bavière ou la partie prussienne ou la partie latine. L'Italie également. Enfin, quand on regarde concrètement l'histoire des nations, on voit très bien que le peuple a une idée. C'est une pétition. C'est une pétition volontariste, mais l'idée concrète et la vie quotidienne passe par des lignes de fait, des petites craquelures, des pluralités constantes, et il faut toujours l'évoquer pour ne pas tomber dans une espèce de mythe abstrait, le peuple qui devrait alors coïncider avec la nation avec l'État. Tout ça me paraît extrêmement au-delà de l'histoire.
Marc Lazare, qu'est-ce que le peuple dans la bouche de ceux qui se revendiquent ou qui revendiquent l'incarner, ce peuple aujourd'hui ?
Alors, c'est là où il faut faire très attention, parce que je pense qu'il y a un syndrome qui est le populisme, qui pour moi, si vous voulez, dans toute la production énorme qu'il y a maintenant, comme on dit maintenant en utilisant un mot anglais, la littérature, qui n'est pas là le roman, mais la littérature, la production scientifique, je crois qu'il y a deux pôles quand on essaye de comprendre ce que c'est que le populisme. D'un côté, ceux qui pensent que le populisme est une nouvelle forme d'idéologie, c'est-à-dire qu'après le déclin des grandes idéologies qui ont caractérisé le 19e et le 20e siècle, sans remonter plus loin, le communisme, le socialisme, le libéralisme, etc., qui sont en déclin, émergerait une nouvelle forme d'idéologie, moins structurée sans doute que les précédentes, ne reposant moins sur un corps de doctrine, mais qui serait le populisme. Puis il y a un autre pôle dans lequel je me range, avec Ilvo Diamanti, c'est qu'on pense que le populisme est un style. Et une fois qu'on a, avec un certain nombre de principes, l'opposition justement d'un peuple qui est supposé homogène, effaçant toutes les différences, qu'elles soient au sein des nations ou des différences sociales, sociologiques, culturelles, au sein même d'une population, avec une classe dirigeante qui serait supposée homogène et complotant contre le peuple. Il y a l'idée aussi qu'il n'y a aucun problème compliqué, mais que des solutions simple, cette invention perpétuelle d'ennemis verticaux, la classe dirigeante, l'Europe, ou horizontaux, c'est-à-dire les immigrés qui mettent en danger la pureté du peuple. Une fois qu'on a dit ça, il faut bien voir, selon nous, qu'il y a une grande diversité des populismes.
Et, donc c'est l'idée, du peuple contre les élites, en tout cas.
Oui, mais ils n'ont pas tous la même acception de la notion de peuple. Et nous, alors...
C'est là où vous dites que c'est un mot fourre-tout.
Je redoute de dire ça devant Carlo Ochoa. Et donc, je m'attends à une critique ferme d'un grand savant et d'un grand érudit, pour lequel j'ai la plus grande admiration. Mais on a essayé de recourir à des notions du latin. Et pour nous, il y a soit le peuple entendu comme populus, au sens latin du terme, république romaine, c'est-à-dire la construction juridique du peuple avec une dimension, on va le dire un peu dans les termes plus modernes, du citoyen actif. Ça, c'est une conception du populisme qui vient plutôt du populisme de gauche. Bon. Et puis, il y a la conception du peuple qui serait plutôt la plebs. C'est-à-dire, en anglais, the common people, ou en italien, la gente, ou les gens, en français. Parfois, ça peut se mélanger. Et puis, il y a encore une autre conception du peuple sur laquelle on attire l'attention du lecteur, parce que l'Italie l'a inventé au XXe siècle, récemment. C'est le peuple, j'allais dire, des consommateurs. C'est le peuple... Je vais employer une expression de type anglais, Sea, Sex, Sun and Television, Berlusconi, et qui s'exporte aujourd'hui. Donald Trump aux États-Unis, différents millionnaires et milliardaires d'Europe centrale et orientale. Donc attention, quand on parle de peuple, y compris les populistes n'ont pas la même acception du peuple. Ces distinctions étant idéales typiques, et je m'arrête là juste pour vous donner un exemple et prendre un cas français qui est le cas de Jean-Luc Mélenchon. C'est très intéressant parce que d'un côté, pour la France insoumise, quand elle parle du peuple et quand son leader parle du peuple, c'est le populus, c'est le citoyen actif. On est là dans la tradition de la gauche jacobine, à la française. Et en même temps, ans, lors de sa dernière campagne, il n'a cessé de parler encore aujourd'hui des gens. Et donc, il combinait à la fois populus et plebs. Voilà comment nous, on essaye de comprendre la manière dont les populistes parlent même du peuple. C'est-à-dire, ils ont des conceptions différentes. C'est pour ça qu'il ne faut pas mettre dans le même sac tous ces populistes.
Oui, face à une représentation dévoyée aussi pour le populisme, ceux qui défendent un populisme de gauche, tel que l'a théorisé aussi Chantal Mouffe, avec un retour à une vraie démocratie où chacun aurait la parole.
Alors, pour nous, c'est la grande transformation des populismes d'un point de vue historique. Parce qu'il faut rappeler aux auditeurs que le populisme a une histoire, qui n'est pas né au XXIe siècle, qu'il est né à la fin du XIXe siècle, dans trois grands pays, la Russie, la France et les États-Unis. Qu'on a connu des pulsions populistes dans les années 30, dans plusieurs pays, dont la France. On en a connu en Italie au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, évidemment, l'uomo qualunque, par exemple, et tant d'autres exemples. Mais la grande différence aujourd'hui, c'est que les populistes se présentent non plus comme auparavant, comme des adversaires de la démocratie, mais comme les meilleurs représentants de la démocratie qui, eux, n'auraient pas peur du peuple. Et ça, c'est une transformation qui met en très grande difficulté les partis traditionnels. Et ils sont à la confluence de deux notions de l'antipolitique. Il y a d'un côté la notion de l'antipolitique au sens tous pourris, tous corrompus, classique dans le populisme, et une autre notion, qui est celle sur laquelle ils travaillent beaucoup, d'aspiration à une autre forme de politique.
Dans cette aspiration à une autre forme de politique, d'anti-politique, comme nous dit Marc Lazare, Carlo Ossola, on voit que tout ça se joue pour l'instant au niveau des États-nations. Mais est-ce que cette idée est transposable pour vous, Marc Lazare, pour vous, Carlo Ossola, à l'échelle européenne ? Parce qu'en même temps, ces dirigeants populistes, cette peuplocratie, comme vous dites, est aussi candidate pour aller au Parlement européen.
Quand on regarde ces mouvements à l'échelle européenne, je constate que la migration intra-européenne existe depuis toujours pour des raisons de travail au 19e et 20e siècle, pour des raisons, et il ne faut pas les oublier parce que c'est notre futur, pour des raisons d'études. Donc l'Europe peut redevenir une Europe au sens le plus bon du Moyen-Âge, avec les universités qui deviennent le tissu identitaire de la jeunesse. Les bourses Erasmus ont été un merveilleux exemple. Et maintenant, il y a des institutions de recherche qui réunissent un peu partout, dans différents domaines, la recherche et les jeunes de l'Europe. Donc, au niveau européen, cette migration constante est un fait. Et il est difficile aujourd'hui de dire, voilà, ça appartient à tel pays, cela appartient à l'autre pays. Les institutions européennes également sont extrêmement ouvertes, et je dirais le tissu est difficilement déchirable, et les Anglais sont en train d'en faire l'expérience. Donc à partir de cela, je crois que ces élections, ce Parlement, mériterait de la part des partis d'envoyer les meilleurs, parce que c'est la construction de l'Europe qui peut pallier à cette différence et à cette, je dirais, une espèce de retraite populiste au lieu d'une ouverture perméable, plurielle, dynamique.
Je vous en prie.
Oui, et je constate d'autre part, comme vous l'avez évoqué, cher Marc, que quand on vient au latin, on voit très bien les différences. Et quelquefois, je dirais qu'on recule même à la gens, c'est-à-dire aux gens qui ont à peu près des affinités de parenté, d'intérêt. Donc on est même en deçà de l'idée de plebs. Et tout ça, c'est sous la même couverture populisme, qui est plus fragile. Il y a une espèce de mythe du populisme, parce que dans son fond, les bases sont très fragiles. On n'a pas encore vraiment choisi, dans les différences que vous avez évoquées, entre gens, ceux qui ont mes intérêts, ma famille, etc., plebs, à laquelle il faut donner des donatifs, et c'est ce qu'on voit en Italie en ce moment. Il faut trouver comme les missiles à l'époque de Néron. Et puis, en effet, il y a le populus qui a des droits et qui est bien réglé par des lois.
Elle était à l'automne dernier déjà aux côtés de l'homme fort du gouvernement italien, Matteo Salvini. C'était Marine Le Pen qui envisageait elle aussi ce moment dit historique.
Cette Union européenne s'est de surcroît drapée d'un certain nombre de valeurs qu'elle n'a eu de cesse de fouler aux pieds au cours des dernières années. La liberté, la démocratie, la solidarité. Or, nous sommes aujourd'hui à un moment historique. C'est l'histoire avec un grand H qui va s'écrire au mois de mai prochain. C'est l'émergence d'une Europe des nations, d'une Europe du respect, d'une Europe des protections, c'est-à-dire celle pour laquelle nous nous battons depuis de nombreuses années, notamment avec Matteo Salvini. Mais pour cela, il faut accompagner cette révolution démocratique et pacifique qui se déroule en Europe, mais pas seulement en Europe en réalité, qui se déroule dans le monde entier et qui vise à tourner le dos à la mondialisation sauvage, à la globalisation sauvage qui a laissé sur son passage un véritable carnage social qui a effondré les valeurs auxquelles nous croyons, au premier rang desquelles la dignité de l'homme.
Il y a plusieurs motifs dans ces aspirations à une autre politique, et vous les rappelez dans votre ouvrage « Peuplocratie », Marc Lazare, plusieurs causes à cette montée de cette peuplocratie économique et sociale. Bien sûr, les inégalités, l'inquiétude pour l'avenir, la désespérance sociale, politique aussi, avec des clivages traditionnels qui ont explosé, technologiques, l'importance des médias aussi dans ce renouveau actuel, culturel et identitaire, avec la peur de l'immigration et de l'islam qui nourrissent aussi ces angoisses. Vous rappelez-vous, Carlo Ossola, que ce n'est pas nouveau dans l'histoire, ce besoin d'un lieu propre à défendre, ce retour à un espace dont on contrôlerait les limites, quand on a un sentiment de fragilisation.
Oui, nous venons d'une histoire plurielle. Les Romains, auxquels on s'est référé tout à l'heure, avaient différentes manières d'associer les gens qui étaient autour et qui pouvaient à un moment être des alliés ou des ennemis. Et la tradition de Rome a été toujours de s'allier avant de se battre. Donc il y avait les soci, les federati, etc. Et puis on devenait petit à petit des cives. Cette politique, me semble-t-il, est aujourd'hui absolument nécessaire. On ne peut pas non plus créer des murs et des frontières partout. Et puis les océans, on met les murs. Il faudrait créer des bateaux mobiles avec, je ne sais plus quelle manière, pour arrêter les gens, les bateaux, les peuples. Je trouve tout ça extrêmement primaire, si vous me le permettez.
Marc Lazare.
Non, mais le discours que vous avez passé est tout à fait intéressant parce que aujourd'hui, la plupart de ces populistes, ici les populistes de droite, hein, voire d'extrême droite comme Marine Le Pen ou Matteo Salvini, ne disent pas qu'ils sont contre l'Europe. Il y a une époque où ils pensaient sortir de l'Europe, ils pensaient revenir sur la dimension, enfin revenir à la nation. Là aujourd'hui, c'est l'Europe des nations. Donc c'est une référence pour les Français à De Gaulle, hein. Faut bien voir ça. Et d'autre part, tout l'argumentaire social contre la globalisation, la souffrance sociale. Et ça, c'est une des raisons de force de ces populismes. C'est aussi, dans l'histoire actuelle, dans le présent que nous vivons, c'est aussi les limites de leurs ententes. Parce qu'ils ont beau faire des effets d'annonce, se réunir, dire qu'ils vont travailler ensemble, ils ont ensuite, justement, des divergences profondes parce que, justement, je vous prends un seul exemple, Matteo Salvini, l'une de ses préoccupations, c'est la répartition des migrants en Europe, et tous ses alliés refusent. Le premier qui refuse, c'est Viktor Orban. Pas question d'avoir un migrant sur son territoire. Donc c'est les limites. Et en même temps, je crois que la force de ces populistes, c'est effectivement dans les situations de désarroi social où on est, désarroi politique, désarroi culturel, identitaire, c'est justement de donner une réponse. Et c'est ça qui est actuellement porteur pour eux. eux, c'est-à-dire ce discours sur la protection sociale pour Marine Le Pen. C'est beaucoup moins vrai chez Matteo Salvini. L'importance de la nation, c'est frappant que dans le cas italien, par exemple, où il y a eu toujours cette grande difficulté depuis l'unité italienne, on pourrait remonter encore plus loin dans le temps, de dire qu'est-ce que c'est qu'être italien. C'est la question qui est récurrente en Italie. Aujourd'hui, Matteo Salvini en propose une définition. Il propose une définition ethno-culturel. C'est très nouveau, parce qu'au départ, il appartient à un mouvement régionaliste, la Ligue du Nord, qui avait comme ennemi principal les méridionaux, i terroni, comme on dit en italien, c'est-à-dire les cutéreux, hein, excusez-moi. Et aujourd'hui, il ne parle plus de ça, il parle d'ennemis de Bruxelles, ça a toujours été le cas de la Ligue, pas dans un premier temps, mais dans un deuxième temps, à partir de 1993, elle a été fondée en 1991, et son deuxième adversaire aujourd'hui, c'est les immigrés et les étrangers. Donc sa définition, quand il est obligé de se prononcer, c'est de dire qu'on est italien par filiation, parce qu'on est de parents italiens, donc c'est le droit du sang, hein, c'est pas le droit du sol, et d'autre part, c'est la dimension catholique. Et il brandit le rosaire, alors que je peux vous assurer qu'il n'a pas une vie qui correspond au canon chrétien. J'ai aucun scoop là-dessus, mais on sait que donc il a une vie assez dissolue. Bon, c'est intéressant parce qu'en plus c'est chrétien contre l'avis du pape. Il est contre le pape puisque le pape François rappelle la nécessité d'accueillir les migrants et rappelle aux Italiens combien ils ont émigré. Il en sait quelque chose lui-même et combien il faut faire attention justement à toutes ces questions de xénophobie et de racisme.
Carlo Ossola, sur la Ius Soli, sur ces questions-là, parce que vous y revenez aussi, ça vous a surpris l'importance de ces débats autour de la loi d'accueil qui a été discutée en Italie, et la question du droit du sang ou du droit du sol, et les choix que l'Italie a à faire sur ce sujet, qui est né aussi dans la foulée du rejet et des prises de position assez dures de l'Italie sur la crise migratoire, qui est peut-être elle aussi symptomatique des divergences aujourd'hui et des faiblesses de l'Union européenne à répondre d'une seule voix à cette question.
Oui, en effet, et fort malheureusement, quand le gouvernement avait eu la possibilité de voter cette loi sur le Ius Soli, ne l'a pas fait. Et donc maintenant, on a un déficit, il faut tout recommencer, alors que c'était pas une loi extraordinairement ouverte, mais c'était déjà une loi digne. Il est évident que dans la vie quotidienne, prenons un exemple très populiste, le football. Eh bien, ce qui est parfaitement contradictoire, c'est que les équipes, toutes les équipes d'Europe participent au même jeu, avec des équipes qui sont formées par des dizaines de joueurs venant de n'importe quel pays, et même au-delà de l'unité européenne. On se reconnaît et dès qu'on sort du stade où on ferme la télé, on dit « nous, on est une seule identité », alors que on croit pendant 90 minutes ou 95 minutes à une identité plurielle qui serait « mon équipe ». Alors là, c'est vraiment l'exemple typique d'un populisme abstrait, mais qui ne correspond pas, je dirais, ne correspond à aucun moment de la vie quotidienne. Le supermarché d'aujourd'hui est l'exact contraire de quelque chose d'identitaire. Les bananes viennent de tel pays au-delà de l'Europe, notre produit vient du Chili, etc., etc. Vous avez un dynamisme de la vie quotidienne qui va au-delà de ces représentations politiques. Il faudrait le rappeler simplement en prenant une tranche de vie quotidienne, une heure de Monsieur l'anonyme qui passe d'un côté et de l'autre de son quartier et qui se trouve constamment dans une pluralité qui ne peut plus être défaite. Alors, je dirais que ce discours populiste, il faut le démasquer. Il faut le démasquer avec des exemples simples parce que c'est une espèce de constante simplification. Rêver. Le quotidien, heureusement ou malheureusement, est plus riche, plus lourd, disons-le, plus lourd. On vit évidemment avec des difficultés croissantes, mais on ne peut pas éliminer les difficultés en disant « venez avec nous et cela n'existera plus ». C'est un rêve, ce n'est pas la réalité. Je dirais que c'est une espèce de hyper-réalisme contre la réalité.
Et le démasquer par l'histoire, Carlos Solà, c'est aussi ce que vous nous dites. On devrait peut-être louer un peu plus la pluralité culturelle de la vieille Europe pour savoir d'où l'on vient. Mais est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, Carlos Solà, on peut imaginer un sentiment d'appartenance commune, une citoyenneté européenne sur ses bases historiques ? Est-ce qu'elle est imaginable ?
Personnellement, j'en suis persuadé, surtout en regardant la vie des jeunes générations qui n'ont vraiment pas de frontières. On pourrait même dire que leur réseau, pour des raisons de travail ou d'études, va au-delà de la vieille Europe. Mais imaginez qu'on puisse avoir une jeunesse en 2040 ou 2050 qui se limiterait à une patrie, ignorerait l'Europe, ignorerait le reste, me paraît vraiment une espèce de limitation. Ce serait comme couper les têtes des jeunes, et je ne trouve pas ça très sain ni souhaitable.
L'Europe n'est pas à faire, elle est déjà faite, écrivez-vous, Marc Lazare.
Moi, je vais avoir une petite nuance avec vous. Je pense que on a d'un côté un paradoxe en Europe, qui est que entre Européens, les Européens se définissent encore par rapport à leur appartenance nationale. Ils se disent français par rapport aux Italiens qui se disent Italiens, ou par rapport aux Allemands, etc. Mais quand ils doivent se définir par rapport à d'autres réalités mondiales, les États-Unis par exemple, ou la Chine, tout à coup, ils se disent Européens. Et je crois que c'est sur ce paradoxe qu'on peut essayer véritablement de construire et de solidifier davantage cette identité européenne, ce qui n'est pas facile parce que ça suppose justement d'essayer de faire la checklist en quelque sorte de ce qui constitue l'identité européenne. Et ce qui aussi nous oblige à faire un travail, et ça nous intéresse Carlos Solà et moi et vous-même, c'est-à-dire pour essayer de reconstituer une histoire commune, c'est-à-dire avec ces éléments partagés, communs et ces conflictualités qui ont caractérisé l'Europe. Pensez à un sujet qui mériterait des heures de discussion, la question de la mémoire du communisme. Parce que on a là une opposition qui est réelle entre ceux qui ont vécu le communisme parce que ils étaient sous des dictatures communistes et un monde occidental qui n'en a pas la même perception. François Furet, dès 1989 à chaud, disait que cette question-là de la reconstruction d'une unité européenne devait passer par un travail mémoriel justement sur la question du communisme. Mais ma nuance, elle est d'ordre sociologique. C'est que je crois que vous avez cité Erasmus. Et évidemment, Erasmus est une formidable entreprise qui a maintenant une longue histoire. Mais qu'est-ce que ça concerne ? Ça concerne essentiellement nos étudiants, ceux qui sont chez vous au Collège de France ou à Sciences Po, et en général les étudiants des universités. Toute une partie de la jeunesse qui n'a pas accès à l'université, qui a été exclu du système scolaire. Pour cette jeunesse-là, Erasmus ne signifie rien. Rien. Et c'est cette jeunesse-là qui est aujourd'hui, quand vous regardez la sociologie du vote, est de plus en plus critique de l'Europe. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Il y a une idée qui est lancée actuellement par les organisations patronales. La Confindustrie en Italie, le MEDEF en France, l'organisation patronale allemande, qui est d'essayer d'inventer un Erasmus des apprentis. C'est-à-dire pour ceux qui n'ont pas eu la possibilité ou la chance de pouvoir faire des études, qui sont dans une situation de travail, de pouvoir avoir des expériences de travail comme les étudiants vont dans d'autres universités, dans d'autres entreprises, d'autres pays, pour essayer de comprendre justement ce que représente l'Europe. Je pense que c'est une des priorités fondamentales si on veut véritablement construire cette identité européenne et effectivement démasquer les populistes. Je trouve que c'est une excellente idée parce que justement on a aujourd'hui cette différence énorme, une fracture au sein de la jeunesse entre la jeunesse scolarisée et estudiantine qui a pu bénéficier de ces programmes et toute une partie de la jeunesse qui ne l'a pas. Vous savez, le premier parti chez les jeunes en France, c'est Marine Le Pen. C'est Marine Le Pen, c'est le Rassemblement National, entre 18 et 24 ans. Donc il faut véritablement essayer de parler à cette jeunesse-là et de la convaincre effectivement. Plus simplement, je vais être un peu provocateur et hérétique, continuer à dire que l'Europe, c'est la paix, c'est la prospérité.
Il faut peut-être trouver des nouveaux arguments.
Bien sûr que c'est la paix. Bien sûr que c'est la paix. Et toutes les jeunes générations ne se rendent pas compte de ce privilège considérable. Mais ça ne suffit pas. Il faut réinventer le discours européen, ce qui suppose aussi de réinventer le projet européen. Et ce projet européen, notamment sur les questions Erasmus, c'est aussi de s'adresser à cette partie de la jeunesse qui n'en a pas bénéficié.
C'était l'ambition qu'il avait, en tout cas, depuis 2017, réinventer ce projet européen. européens répondre dans ce nouveau clivage aux populistes nationalistes avec son progressisme. Je vous propose d'écouter Emmanuel Macron.
Les passions tristes de l'Europe sont bien là, qui se rappellent à nous. Et elles fascinent. Elles savent faire oublier la cohorte de malheurs qui, dans l'histoire, les a toujours suivis. Elles rassurent. Et j'ose le dire, elles peuvent demain l'emporter. Non parce que les peuples sont crédules, non parce que l'idée européenne est morte, mais parce que nous avons, par inconscience, faiblesse ou aveuglement, créé les conditions de leur victoire. Parce que nous avons oublié de vouloir le fil de cette ambition. Parce que nous avons oublié de défendre l'Europe. Parce que nous avons oublié de proposer pour l'Europe. Je ne laisserai rien. Rien. À toutes celles et ceux qui promettent la haine, la division ou le repli national. Je ne laisserai aucune proposition. C'est à l'Europe de les faire. C'est à nous de les porter. Aujourd'hui et maintenant.
Bon, il y a ne rien laisser, c'est une chose, Marc Lazare, et il y a ce que l'on peut faire pour. Et là, on est quand même face à un grand vide. C'est-à-dire, comment réagir si pour ce camp progressiste, face à cette montée des dits populismes ou de cette peuplocratie, on a le sentiment qu'ils sont complètement démunis aujourd'hui.
Ouais, je crois que c'est effectivement difficile. C'est un discours très beau hein, d'Emmanuel Macron. On peut ensuite être bien sûr en désaccord avec ce discours, mais c'est un discours qui porteur d'une grande ambition. Le problème, c'est effectivement de la concrétiser. Et à l'Europe à 28 ou 27, c'est particulièrement difficile. D'ailleurs, le président s'est heurté à plusieurs oppositions, l'opposition des pays du Nord, des pays de l'Europe centrale orientale, et puis la difficulté de relancer l'accord avec l'Allemagne, et surtout le déficit italien. Le déficit au sens que des déficits politiques. L'Italie aurait pu être le pays qui traditionnellement aurait pu aider justement la tradition italienne, celle de l'Europe fédéraliste, celle d'Altiero Spinelli, celle de la démocratie chrétienne, qui a été une très grande ambition, aujourd'hui est en panne. Et ça rejaillit justement sur l'ambition de Macron.
Carlo Ossola, vous avez dit que la paix de l'Europe a été notre pain et notre rêve au passé. Aujourd'hui, comment réactiver ces valeurs, cette mémoire de l'Europe sans tomber dans la nostalgie? C'est aussi la question que vous vous posez à travers ces fables d'identité. Que mettre en avant?
D'abord, tout ce qu'on a reçu et qui est là, qui est déjà patrimoine commun. On peut dire qu'on est pauvre parce qu'on a oublié d'hériter. Il y a aussi cette manière d'être pauvre parce qu'on oublie tout ce qui est déjà là comme legs, comme patrimoine. Il y a d'autre part quelque chose qui peut pallier à la difficulté entre élite et exclus. Le fait même que les exclus sont partis, à leur tour, ils ont créé une espèce d'Europe des pizzas qui sont désormais partout. J'ai cherché en vain pendant trois quarts d'heure un restaurant suédois à Stockholm parce que partout il y avait des pizzeries, etc., et qui étaient pas seulement gérées par des Italiens, mais par tous, je dirais, les gens venant de la Méditerranée. Désormais, pita, pizza, etc., c'est un terme commun à la Grèce, à la Turquie, au Maroc, à l'Italie, etc. C'est l'unité profonde de la Méditerranée qui s'est exportée dans le nord de l'Europe. Donc, évidemment, il faut avoir du temps, c'est-à-dire le fait que les migrations, d'abord, sont silencieuses et sans pouvoir. Et puis, il y a une espèce de patrimoine artisanal qui va s'installer. Et ce que vous avez dit à propos du patronat est tout à fait dans la tradition. Je me rappelle que Ho Chi Minh a fait le tour d'Europe pour apprendre des métiers et les porter à son parti au Vietnam.
Voilà l'histoire et la résurgence de ces mythes. Voilà ce qu'est l'Europe, écrivez-vous, Carlo Ossola. Ce livre, Fable d'identité pour retrouver l'Europe, est consacré au patrimoine commun de la mémoire européenne. Mais pour qu'une mémoire soit partagée, encore faut-il qu'elle soit accessible. Merci beaucoup à vous. Merci à vous, Marc Lazare. Je rappelle rappelle que vous avez co-signé ce livre avec Ilvo Diamanti, Peuplocratie ou la métamorphose de nos démocraties, qui vient de paraître chez Gallimard. Un grand merci à toute l'équipe de La Grande Table, Mayan Escovic et Laura Dutèche-Pérez, Oriane Delacroix, Jean-Christophe Brianchon et Henri Leblanc, avec l'aide précieuse de Mathilde Tonfourcade et d'Antoine Suzarelli. À la réalisation aujourd'hui, c'était Marie Placet, et à la technique, Pascal Baudin.